déjà pour certains d'entre nous, puisqu'il est déjà passé. Alors, il ne s'agit pas d'une conférence de philosophie exactement cette fois-ci, hein, c'est plus une conférence de culture classique, hein, sur la question de la tolérance chez les Grecs, chez les Romains. Est-ce qu'ils étaient tolérants? Est-ce qu'on pouvait parler d'intolérance en ce qui les concerne? Voilà, je pense que c'est le thème de la soirée. Hein. Sinon, j'annonce que pour ceux qui parfois passeraient par cette petite ville un peu lointaine, étrange sur la côte, qui s'appelle Pécan, je vous invite mon collègue, eh bien, il fait parfois, le samedi, hein, c'est ça, oui, des petites conférences sur Ovid cette année, les métamorphoses. Hein. Donc voilà, et évidemment, c'est une ville... perdu dans...
Je ne suis pas fait qu'en poids, tu peux y aller.
Et donc...
Et en plus, j'essaye d'être philosophe ce soir.
Donc voilà, il habite là, bon, enfin, bon... Et il fait des voyages. Donc, voilà, si vous avez l'occasion, hein. Et puis, bon, moi, je vais lui laisser la parole. Hein. Alors, si, juste une chose, sachez que la prochaine séance... alors, ce sera la première séance consacrée à la lecture de Malaise dans la culture de Freud. Ce sera le mardi 15 décembre. Mardi 15 décembre. Et la suivante, qui a été, qui devait avoir lieu le 15 décembre, eh bien, elle aura lieu le 12 janvier. C'est Florent Lucie qui viendra parler du totalitarisme, sur lequel, d'ailleurs, il a écrit deux ouvrages. Voilà. Je te laisse la parole.
Merci. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Je vais essayer de ne pas dire de choses trop sottes, trop fausses ou trop ennuyeuses, ce qui est déjà une belle ambition. Donc je devrais partir tout de suite, mais je vais quand même rester, puisqu'il y aura forcément des choses erronées, approximatives, etc. Le sujet est extrêmement vaste et en même temps, me semble-t-il, assez simple. C'est toujours dangereux de commencer une copie de philo en disant « le sujet est simple, je vais y répondre ». C'est la meilleure façon d'échouer. Le sujet, donc, la tolérance dans les religions grecques et romaines de l'Antiquité. Donc, sujet extrêmement vaste compte tenu de la période, compte tenu donc de la complexité même du phénomène religieux, quelle que soit la civilisation. Et pourtant, il me semble qu'on peut apporter une réponse assez simple, mais ça, effet de suspense, bien sûr, ça sera à la fin, et un peu quand même chemin faisant. Donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est un exposé général, Didier parlait de culture générale antique, oui, un exposé général sur le fait religieux chez les Grecs et les Romains, avec tout de même bien évidemment la perspective de la tolérance ou de l'intolérance. Nous allons essayer de voir, je vais vous proposer des éléments après, chacun sera son opinion bien sûr, de voir si on peut parler de religion tolérante dans l'ensemble, ou non. J'ai ma petite idée derrière la question, mais à vous de juger sur pièce. Je vais vous proposer d'une manière tout à fait chronologique de commencer par la civilisation grecque sans originalité. Je passerai ensuite à la civilisation romaine pour finir avec le christianisme chez les Romains, mais aussi chez les Grecs, puisqu'à cette époque, les Romains sont devenus déjà les maîtres de la Grèce. Alors, je vous le disais, il paraît assez difficile de réduire 2000 ans de civilisation grecque, et même un peu plus, sur un sujet qui est en soi aussi vaste que celui de la religion, de réduire tout cela à quelques vérités définitives. Et pourtant, au-delà des différences dans l'espace comme dans le temps, le monde grec laisse apparaître, me semble-t-il, à l'observateur moderne, un ensemble commun assez cohérent de croyances, de rites, qui, dans sa pérennité comme dans ses évolutions, accompagnent toute l'histoire des Grecs, un beau continuum de civilisation, qui constitue du reste un des éléments marquants, majeurs du monde grec. Il y a une cohérence du fait religieux en Grèce, à travers le temps et l'espace. On parlera plus volontiers que de religion, même s'il est commode de parler de religion grecque par, encore une fois, par commodité de langage moderne, mais on parlera plus volontiers de croyances et de rites, au pluriel, nécessairement. Il s'agit d'un ensemble de pensées et de pratiques qui sont liées au divin, mais il ne s'agit pas proprement parler d'une religion, car un premier fait étonnant mérite d'être noté, je crois, c'est que la notion de religion, ou pour tout dire le mot de religion, n'existe pas, ou pas vraiment, en grec. C'est un fait extrêmement étonnant à première vue, d'autant plus que la langue grecque est une langue extrêmement riche sur le plan lexical et quand le mot n'existe pas, c'est une langue qui par sa structure même, sa structure agglutinante, a une facilité déconcertante à former des mots nouveaux. Donc si le mot religion n'existe pas à proprement parler, on peut toujours arriver à le traduire, mais c'est toujours un peu faux, à partir d'un mot grec ancien. Si le mot religion n'existe pas à proprement parler, c'est que la notion n'est pas la même qu'à l'époque moderne. On va parler en effet chez les Grecs, on va parler des dieux, oiteoi, expression très fréquente, très simple. On va les honorer avec piété, la piété c'est eusebeia. On va rendre aux dieux un culte qui va être therapeia, qui a donné thérapie, donc un soin accordé aux dieux, ou encore treskeia, un mot qui peut être le moins éloigné de religion mais qui n'est pas très fréquent dans son emploi. Il y a des prêtres, des hiereis, ceux qui sont en rapport avec le sacré hieros. On accorde au dieu sa confiance, qu'on peut traduire parfois le mot de pistis, mais c'est un mot qui a une acception tout à fait courante, la confiance qu'on accorde à quelqu'un, à un mortel. On peut consulter les dieux pour connaître l'avenir ou comprendre la cause des événements passés avec la manteia, la divination. Mais au total, c'est bien joli, je viens d'énumérer une demi-douzaine de termes, mais il n'y a pas un terme qui à lui seul puisse saisir, résumer la notion de religion. À la différence du reste de ce qui va se passer à Rome, où on va avoir un terme, le terme de religio, mais on va s'interroger aussi sur l'étymologie de religio et on verra que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Donc, on vient de le voir avec cette énumération, les mots ne manquent pas chez les Grecs pour désigner ce qui a trait au sacré, ce qui relève des rapports entre les hommes et le sacré. Les mots ne manquent pas, mais il manque un mot, selon une approche moderne, un mot qui recouvrirait tous les autres. Et donc, je crois qu'il faut voir là le premier indice d'un phénomène multiple et qui n'a rien de normatif, du moins au départ. La religion grecque, c'est un ensemble de pratiques et de croyances plutôt que quelque chose qui serait défini dès le départ. Un autre indice donc corrobore ce premier indice, à savoir l'absence d'un corpus officiel de textes sacrés qui constituerait quelques fondements scripturaux ou même, à défaut, un fondement oral, une référence officielle pour la religion grecque. Donc je suis en train de vous dire que la religion grecque, ça n'existe pas vraiment, et qu'il n'y a pas de texte sur lequel cela repose. Aucun texte révélé en tous les cas, comme on en trouve dans le monothéisme, ce qui est là aussi une différence majeure avec l'époque moderne. Tout au plus existe-t-il un certain nombre de textes, d'hymnes en particulier, pour quelques cultes spécifiques, comme l'orphisme, pour des courants religieux qui sont hors de la religion civique. Mais pour l'essentiel, les croyances religieuses des Grecs s'enracinent dans un fond qui est antérieur à l'apparition de l'écriture elle-même. Je dis apparition ou plutôt réapparition, puisque l'écriture existait au deuxième millénaire avant Jésus-Christ dans le monde grec, avait disparu à la suite de ce que les historiens ont appelé d'une manière assez simple, voire simpliste, mais commode, les âges obscurs de la Grèce, et puis l'écriture est réapparue donc au 8e siècle avant Jésus-Christ. Toujours est-il qu'il n'y a pas de texte donc de ces époques anciennes qui aient été écrits et révélés. Donc les textes sont d'abord des textes de tradition orale qui, par la suite, n'a pas été sacralisé en étant fixé par l'écrit. Du reste, si on se pose la question, pourquoi, qui, comment, dans quel but, à quel moment, pourquoi donc, pour qui, dans quel but, à quel moment aurait-on écrit un texte religieux? Toutes ces questions se posent et s'imposent dès qu'on évoque l'hypothèse absolument invraisemblable d'une rédaction de faits relatifs au divin. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'intention religieuse, en quelque sorte. Le monde grec, donc, est multiple. Politiquement, c'est un agrégat constitué de peuples désunis, pour reprendre la formule de Mirabeau pour la France. C'est un agrégat de groupes de populations parlant la même langue, ayant conscience d'une profonde unité, notamment face aux barbares. Des populations qui entendent aussi, au-delà de cette unité, exercer avec une liberté absolue, leurs existences distinctes. Plusieurs centaines de cités-États dans le monde grec et non pas un pouvoir central unifié comme on va le voir à Rome. Multiples sont également les dieux grecs. On peut les réunir dans un panthéon, du moins les dieux principaux. Pour le reste, on peut se perdre dans les détails. Chaque dieu a son histoire, c'est-à-dire ses légendes. Légendes au pluriel, parce qu'il suffit, vous le savez, si vous avez un tant soit peu un jour ouvert un dictionnaire de mythologie, il suffit d'essayer de vérifier quelque chose que l'on croit savoir sur tel ou tel dieu pour se rendre compte qu'il existe non pas une, mais deux versions, trois versions, quatre versions, différentes selon les auteurs. Donc on est bien loin d'un texte de référence unique. Comment pourrait-il en être autrement du reste, puisque ces légendes, du moins au départ, ont été transmises oralement dans un espace géographique très vaste, et à travers les siècles, elles ont évolué également, elles ont été prises, appropriées par des narrateurs d'abord, ensuite par des auteurs, bref. Ces textes, quand ils ont été écrits ensuite, et déjà au point de départ, ces traditions, relèvent de beaucoup d'accommodements personnels. Il y a bien sûr des mythographes, donc par exemple le plus connu d'entre eux est Apollodore, ou du moins celui qu'on appelle désormais le pseudo-Apollodore, mais ces mythographes sont tardifs, donc pas de texte constitutif, encore une fois, de la religion grecque. Et j'ai envie de voir, alors c'est peut-être déjà une forme d'interprétation, mais j'ai envie de voir déjà dans ce foisonnement, dans cet éclatement même de la matière religieuse grecque, sur le plan du moins des croyances, j'ai envie de voir un premier élément intrinsèque de tolérance. Je m'explique. Il n'y a pas de vérité unique établie une fois pour toutes, depuis longtemps, une sorte de livre sacré auquel on pourrait se référer pour prononcer des, allez, osons le mot, des anathèmes ou des fatwas, chacun choisira sa langue, sa religion, son terme. Il n'y a pas de texte qui puisse donner ce prétexte ou cette occasion. Pas chez les Grecs. Mais je vous rassure, il y aura quand même des formes d'intolérance. On est bien chez les humains. Les Grecs ne dérogent pas à la règle de l'intolérance foncière de l'humanité. Bon, je cesse mon cynisme. Et je reprends le cours des événements. Alors, il existe donc... Il existe plusieurs dieux grecs, donc plusieurs histoires. Et il y a tout au plus... dans cet ensemble une sorte de miroitement complexe, diffus, mobile, à partir d'un fond plus ou moins commun. Donc, pas de vérité absolue encore une fois. Il existe aussi tout au plus quelques textes de référence, quelques grands textes, des poèmes, qui apparaissent assez tôt dans le monde grec. Quand je dis assez tôt, c'est au 8e siècle, mais c'est finalement bien tard par rapport à l'arrivée des populations grecques qui s'est faite tout au long du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ces textes sont d'une part la Théogonie d'Hésiode et les deux épopées homériques que sont l'Iliade et l'Odyssée. Il existe un troisième texte qui est attribué à Homère, ce sont les hymnes homériques. En fait, les hymnes homériques sont un ensemble disparate de poèmes composés entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ. On a regroupé ces différents hymnes sous le nom d'Homère, mais d'une manière certainement ou probablement pour beaucoup abusive. Si on regarde un peu ce que sont ces différents textes, j'en ai proposé un extrait, j'espère qu'on aura le temps, je ne vais pas être trop long non plus, de voir le texte d'Hésiode, donc un extrait de la Théogonie. La Théogonie, comme son nom l'indique, Théos, Dieu, Gongen, c'est la racine de la naissance. La Théogonie, c'est explicitement l'histoire de la naissance des dieux, à commencer par la naissance, l'apparition des éléments qui sont au fondement, j'allais dire de la création, je crois que le terme serait impropre, au fondement de la matière, de l'univers. Et tout cela à partir du dieu initial qui est Chaos, avec une majuscule, bien sûr le chaos personnifié. La Théogonie raconte également la prise du pouvoir des dieux olympiens, qui n'ont pas été les premiers dieux qui sont arrivés après, prise du pouvoir sous l'égide de Zeus, une espèce d'opéa divine. Voilà pour la Théogonie. Dans l'Iliade et dans l'Odyssée, on voit les dieux terriblement ou délicieusement humain, chacun choisira son adverbe selon son plaisir de lecture. On voit ces dieux tenir des assemblées, intervenir dans les combats et dans les aventures des hommes d'une manière extrêmement anthropomorphique. Ces textes de l'Iliade et de l'Odyssée sont composés au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils sont connus et répandus à travers tout le monde grec. Si j'ose dire, c'est la Bible du monde grec, mais pas au sens religieux, attention, c'est la Bible du monde grec au sens où la Bible, dans les pays anglo-saxons, peut être l'ouvrage de référence, l'ouvrage dans lequel, pendant longtemps, des générations entières ont appris à lire, ont trouvé une source de morale, une source de connaissance du monde. Mais sur le plan religieux, donc, ça n'est pas à pleinement parler une Bible. Donc, l'Iliade et l'Odyssée constituent en tous les cas un facteur primordial d'unité dans une civilisation qui est par ailleurs extrêmement divisée, la civilisation grecque. Et cette culture littéraire autant que religieuse, qu'il s'agisse donc de l'Iliade et de l'Odyssée, mais aussi de la Théogonie, cette culture littéraire commune constitue, je crois, là encore, un élément fondamental de tolérance, dans la mesure de tolérance entre Grecs, dans la mesure où c'est une référence commune, mais en même temps une référence commune qui n'est pas dogmatique. Et plutôt que de tolérance religieuse, je crois qu'il faudrait, dans le monde grec, en tout cas pour cette époque archaïque, 8e, 7e, 6e siècle, je crois qu'il faudrait parler, plutôt que d'une tolérance religieuse, il faudrait parler d'une tolérance grâce aux faits religieux. Tolérance qui contrebalance l'intolérance très forte liée au fait politique, donc le fait religieux, me semble-t-il, apporte une tolérance que le fait politique dénie chaque jour. Intolérance politique entre cités, mais aussi à l'intérieur même des cités, entre les partisans du régime démocratique et les partisans du régime oligarchique. Donc l'intolérance est profonde sur le plan politique, et d'une certaine façon c'est la religion qui permet de la dépasser. Cette articulation religieuse complexe entre l'unité et la diversité, unité de croyances communes et en même temps diversité, éclatement des faits sans texte de référence, cette articulation religieuse se retrouve sous une autre forme à travers les cultes et les sanctuaires. Les pratiques cultuelles, en effet, chez les Grecs, ne sont pas codifiées à l'échelle de toute la civilisation grecque. Simplement, elles sont comparables du seul fait de la tradition et de l'usage. Donc il n'y a pas un clergé établi, mis en place d'une manière centrale. Il n'y a pas une pratique ou un ensemble de pratiques imposées du haut vers le bas, du sommet vers la base. Pas de clergé centralisé. Mais il existe beaucoup d'éléments communs du fait de la tradition. Pour ce qui est des sanctuaires, il existe deux sortes de sanctuaires, pour simplifier. Certains sont locaux, avec des divinités soit locales, soit honorées dans tout le monde grec. Mais ces sanctuaires locaux, donc, répondent à une demande locale par leur fonction et par la participation des fidèles qui sont de la cité la plus proche, voire des environs immédiats. D'autres sanctuaires, au contraire, deuxième catégorie, d'autres sanctuaires sont panhelléniques, c'est-à-dire partagés par l'ensemble du monde grec, ou du moins ils le sont devenus avec le temps. S'ils ne l'étaient pas au départ, ils ont pu acquérir un statut, une aura qui en fait d'eux des sanctuaires de référence pour l'ensemble des Grecs, attirant donc des fidèles de tout cet espace géographique extrêmement vaste, à l'échelle de l'Antiquité en particulier, et même attirant parfois des fidèles ou des gens venus consulter depuis le monde barbare. Les plus célèbres de ces sanctuaires sont Dodone, consacré à Zeus, ou encore Olympie, consacré également à Zeus, Delphes, qui est le haut lieu du dieu Apollon, ou encore Épidaure, qui est le lieu du culte du dieu Asclépios, le dieu de la médecine. Là encore, je crois, ces sanctuaires panhelléniques sont un précieux facteur de tolérance dans le monde grec, au-delà de l'intolérance politique, de l'intolérance entre cités qui a généré tant de guerres, tant de conflits. Un exemple, un seul, les guerres qui opposent les cités constamment dans l'Antiquité grecque, les guerres qui opposent les cités s'interrompent très officiellement le temps des jeux qui se déroulent dans un cadre religieux tous les 4 ans à Olympie. Donc la religion donne lieu à des jeux, en n'allant pas imaginer des jeux à la façon des jeux médiatiques purement sportifs modernes, ce sont des jeux essentiellement religieux dans leur émanation. Et ces jeux permettent de faire une trêve, même pendant les pires des guerres, comme celle du Péloponnèse qui a opposé si cruellement Sparte et Athènes et une bonne partie du monde grec dans leur sillage. Alors, une autre question se pose maintenant, est-ce que la religion est une affaire privée ou une affaire publique? C'est, après tout, me semble-t-il, enfin bon, c'est le fruit de réflexion personnelle, c'est à mon avis la grande question qu'il faut à chaque fois se poser face à la religion, affaire privée ou affaire publique. Eh bien, à cette question, la civilisation grecque apporte une réponse double. Pour ce qui est des croyances comme des pratiques, chacun peut accorder une préférence à tel ou tel dieu. Donc il existe une forme privée de religion. Chacun peut demander la protection d'une divinité de préférence aux autres divinités. Chacun peut même ne pas croire en l'existence des dieux, tant du moins que cela ne fait pas de tort à sa cité. On va y revenir. L'autre dimension publique, la dimension officielle de la religion, pour dire le mot, la dimension politique du fait religieux, est majeure, essentielle, cardinale chez les Grecs. Une cité sans dieu et sans rite est tout bonnement inconcevable. Donc, il n'y a pas un seul exemple de cité sans dieu, et il ne peut pas y avoir, pardon, dans le monde grec, d'exemple de cité sans dieu et sans rite. Pourquoi ? Eh bien, précisément parce que toute cité trouve son unité suprême, essentielle, dans ses dieux protecteurs. Là encore, au-delà des dissensions politiques et des différences sociales qui ne cessent d'agiter toute cité grecque normalement constituée ou mal constituée, eh bien, une cité existe grâce aux dieux. Les dieux qui veillent sur son salut, les dieux que l'on invoque lors des guerres, et une cité se retrempe dans son destin commun à l'occasion de cérémonies officielles. Il se passe en quelque sorte à l'échelle de chaque cité ce qui se passe à l'échelle du monde grec à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc tous les conflits doivent cesser, on dépasse les clivages. On peut par exemple donner le cas de la fête des Panathénées qui tous les ans célèbre l'unité et l'existence même de la cité d'Athènes. Athènes consacrée comme son nom l'indique à la déesse Athéna. Les Panathénées donc ont lieu tous les ans et tous les 4 ans précisément ont lieu les grandes Panathénées, celles qui donnent lieu à une procession entre autres festivités religieuses. Les grandes Panathénées donnent lieu à une procession qui traverse toute la ville d'Athènes, donc c'est déjà extrêmement symbolique de cette réunification d'Athènes et des Athéniens le temps de la procession. Une procession qui traverse Athènes, qui aboutit sur le lieu sacré par essence, à savoir l'Acropole, et précisément qui aboutit au temple de la déesse protectrice de la ville, le Parthénon, le temple de la déesse tutélaire Athéna. Contester les dieux de la cité, donc, d'une façon ou d'une autre, c'est d'une part risquer d'attirer sur tous les membres de la cité la vindicte des dieux, ça n'est pas très prudent, mais c'est aussi, au-delà même de toute crainte superstitieuse, c'est mettre en péril tout l'édifice social, dire que les dieux n'existe pas, ou du moins le crier un peu trop fort. Refuser de participer ou de respecter ces cérémonies publiques en l'honneur des dieux protecteurs, c'est d'une certaine façon se moquer de cet ensemble social que constitue la cité. Et ça, c'est absolument inconcevable pour les Grecs. Quoi qu'il arrive, on existe dans le cadre de la cité. Souvenons-nous de ce que disait Aristote, encore une fois cette fameuse formule, les hommes, les Grecs par définition, sont des êtres vivants qui sont faits pour vivre en cité. Zone politikon, ce n'est pas l'animal politique, il faudrait une longue périphrase pour tout traduire, ce que je viens de faire du reste, mais c'est un être vivant qui est fait pour vivre en cité. Hors de la cité, point de salut, hors des dieux, point de salut pour la cité. Donc il faut des dieux pour la cité, et on ne peut pas officiellement les remettre en cause, j'allais dire trop les remettre en cause. C'est peut-être ici qu'apparaît donc un premier élément du champ de l'intolérance religieuse chez les Grecs, mais selon une frontière différente de celle du monothéisme. Si intolérance il y a, c'est justement envers ceux qui se permettent de contester l'existence des dieux. Donc chacun, en fait, croit comme il le veut, tant qu'il garde ça pour lui. À la différence peut-être de ce qui peut se passer à certaines époques, dans certains cadres pour les monothéismes, qui n'acceptent pas tout simplement la remise en question de l'existence même d'autres croyances. Dans les cités grecques, on accepte beaucoup de dieux. On accepte aussi des dieux venus d'autres cités, venus du monde barbare. Au fur et à mesure, le panthéon grec s'est étoffé, enrichi, complexifié. Mais en tous les cas, on ne doit pas nier l'existence des dieux officiels. Et cela pose la question de l'athéisme, question complexe, extrêmement intéressante. Je me permets de vous signaler ce fort volume de Georges Minois, Histoire de l'athéisme, une somme sur la question, c'est extrêmement intéressant et extrêmement minutieux. Donc la question de l'athéisme est une question complexe qui peut être abordée de différentes manières. Peut-on parler d'athéisme déjà chez les pré-socratiques, chez les prédécesseurs de Socrate? Ainsi, pour Héraclite, le monde n'a pas été créé par un dieu ou par des dieux. Est-ce pour autant de l'athéisme ou est-ce au contraire, si j'ose dire, du panthéisme avec des dieux qui sont immanents, présents dans le monde et des dieux sans transcendance? Donc, assez paradoxalement, une forme de panthéisme rejoindrait peut-être l'athéisme. Je ne voudrais pas commettre d'aberration philosophique, je parle sous contrôle, et avec grâce à la tolérance de mon collègue. Mais enfin, on s'est posé la question, pour Héraclite, est-il athée ou panthéiste? Pour le fait déjà qu'on se pose la question en dit très long sur la complexité de la façon d'approcher la notion d'athéisme dans l'Antiquité. On va quand même trouver, je vous rassure, des cas de personnages qui sont athées. Alors, avant d'arriver à un athée, commençons par Protagoras, le sophiste Protagoras, qui a été si esquinté sur le ring philosophique du dialogue platonicien. Vers 415, Protagoras, le sophiste, on est à la grande époque des sophistes qui vendent leur enseignement et qui sont, comme le rappelait Jacqueline de Romilly, les premiers éducateurs, les professeurs de la Grèce, on les voit souvent à travers Platon, et donc d'une manière extrêmement dépréciative, mais il faut aussi leur rendre cette justice qu'ils ont élevé le niveau culturel, sans même parler de la rhétorique, le niveau culturel de la Grèce et cette habileté de l'esprit grec à leur façon. Eh bien, Protagoras, donc vers 415, est l'auteur d'un traité qui s'intitule « Sur les dieux », au sujet des dieux. On en a conservé une seule phrase, j'allais dire « et pour cause », et doublement pour cause. Pour cause de destruction du texte, on n'en a conservé qu'une seule phrase, et pour cause de cette seule phrase, on l'a conservée. Je m'explique. Cette seule phrase, c'est la première. À propos des dieux, il m'est impossible de savoir s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Je répète. À propos des dieux, il m'est impossible, dit Protagoras, de savoir s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Attitude donc qu'on qualifierait aujourd'hui de sceptique, d'agnostique, et non assurément profession d'athéisme. Il est vrai qu'on n'a pas la suite du texte et c'est bien regrettable. Scepticisme, agnosticisme, rien d'athée dans ce propos, et pourtant la lecture publique de ce traité a valu à Protagoras les pires ennuis. Il a été chassé d'Athènes, les exemplaires de son livre ont été brûlés sur la place publique, selon le biographe des philosophes antiques qu'est Diogène Laërce. Si je ne m'abuse, mais là je ne veux pas aller trop loin, je crois que c'est le premier cas avéré d'autodafé dans l'histoire de l'humanité, donc... là aussi, ça donne à réfléchir sur la démocratie athénienne. Bon, j'arrête une fois de plus mon cynisme, mais il reviendra naturellement, rassurez-vous. Pourquoi détruire ce texte-ci alors que finalement, je n'ai cessé de vous dire que depuis tout à l'heure, que les Grecs étaient finalement extrêmement tolérants, non seulement dans le cadre religieux, mais grâce à la religion. Eh bien, pour mieux comprendre, Il faut voir que cette destruction du cet auto-da-fé, pour parler portugais en Grèce, cet auto-da-fé du traité de Protagoras s'inscrit dans un contexte particulier. On remonte avec la machine à remonter le temps, on remonte une quinzaine d'années en avant. Précisément, nous sommes en 432 avant Jésus-Christ, et un devin, un certain Diopaïtès, littéralement celui qui accorde sa confiance à Zeus, donc peut-être était-il prédestiné par son nom. Donc Diopaïtès avait obtenu que l'Ecclésia, l'Assemblée des Athéniens, adopte un décret qu'on pourrait qualifier d'inspiration corporatiste. Ça serait un peu anachronique de dire poujadiste, mais bon, nous y sommes. Un décret, donc, à l'initiative de Diopaïtès, qui prévoit des poursuites contre tous ceux qui ne croient pas aux dieux reconnus par l'État. Donc, on retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure, on ne peut pas remettre en cause l'existence des dieux de l'État. Et pourtant, il faut quand même attendre, si on voit les choses autrement, 432, avant que ça bouge sur le plan législatif, et avant qu'on ne prenne des mesures pour sanctionner ceux qui ne croient pas aux dieux de l'État. 432, c'est tard, il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de la Grèce et des cités. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce décret ? Eh bien, parce que apporter des explications naturelles, comme le font certains philosophes, apporter des explications naturelles à des phénomènes qui sont traditionnellement attribués aux dieux, c'est, j'allais dire, pour employer une formule toute faite, c'est la porte ouverte à la fin de la divination. C'est la ruine du petit commerce, de la prédiction, de ce que vont faire les dieux. Et ça, sur le plan corporatiste, c'est une catastrophe. Donc le syndicat des devins monte au créneau par la voix de Diopaïtès. On ne peut pas menacer directement la pratique de la divination et bien évidemment son business. Ce décret a-t-il été appliqué ? Après tout, les Athéniens ont ce côté assez sympathique d'être un peu comme les législateurs français, de multiplier les textes et de ne pas toujours les appliquer, ou de les abroger avant d'avoir mis en pratique. Bon, nous sommes un peu Athéniens. Le premier penseur à avoir été frappé par ce décret, donc ce décret a été mis en application, c'est Anaxagore de Clazomène. Alors déjà, son nom est intéressant quand on se réveille le matin pour se faire les zygomatiques. Anaxagore de Clazomène, qu'avait-il dit ? Eh bien, avant de voir ce qu'il avait dit, voyons qui il était. Et donc, on pourra se passer de ce qu'il a pu dire. Anaxagore de Clazomène a notamment prodigué son enseignement à Périclès, le grand dirigeant majeur d'Athènes, à propos duquel l'historien Thucydide disait « Officiellement, c'est le régime de tout ce que la démocratie athénienne, en réalité, c'est le commandement d'un seul homme, Périclès. » Qu'est-ce que Périclès vient faire dans cette histoire d'Anaxagore ? Eh bien, tout est lié. Anaxagore, donc, a eu le tort d'être l'enseignant ou un maître à penser, en tous les cas, de Périclès. Et donc, derrière la religion, on retrouve la politique. Les sources divergent quant à la sanction infligée à Anaxagore. A-t-il été condamné à mort ? A-t-il été jeté en prison ? A-t-il été exilé ? On n'en sait rien. Il semble, en tous les cas, quelle que soit la sanction prise contre lui, il semble qu'à travers Anaxagore, ce soit Périclès qui soit visé par des ennemis de la démocratie, le parti oligarchique sommeillante ou se réveillant parfois à Athènes. De la même façon, on était en 432 avec le décret de Diopaïtès, de la même façon, il semble bien que Protagoras, donc, ait été visé. À travers Protagoras, ce soit la démocratie qui ait pu être visée. Donc il y a toujours de la politique derrière. Les sources antiques donnent du reste le témoignage de différents procès pour impiété pour des gens qui sont accusés donc de ne pas croire aux dieux. Par exemple, Diagoras, ou encore Diogène d'Apollonie, ou encore Théodore de Cyrène, appelé Théodore l'athée, au moins les choses sont claires. Donc un certain nombre de personnages, on en a gardé le souvenir, ont été ont fait l'objet, du moins, de procès pour impiété. Mais d'un autre côté, il faut remarquer aussi que des gens qui étaient des athées notoires, qui se moquaient ouvertement de l'existence des dieux, comme Hippon de Régium, un philosophe du 5e siècle, ou des gens, Hippon de Régium, qui enseignaient qu'en dehors de la matière, rien n'existe. Peut-on être plus clair en matière d'athéisme? Ou encore Aristodème, dit Aristodème le Petit, qui se moque des croyants. Eh bien, ces gens-là, ces athées notoires, n'ont jamais été inquiétés. Donc, il semble bien que les procès pour athéisme soient largement motivés pour des raisons politiques, encore une fois. Et Socrate? Eh bien, la position religieuse de Socrate est, semble-t-il, difficile à cerner. Là encore, tout dépend des sources. Vous le savez, on a conservé le nom de deux grands disciples de Socrate. Le plus grand, le plus connu sur le plan philosophique, c'est bien sûr Platon. Mais n'oublions pas non plus Xénophon, qui n'était pas philosophe, qui écrit des ouvrages se rapprochant de la philosophie, qui était un polygraphe écrivant sur une quantité de sujets, un esprit curieux et très ouvert. Un petit peu conservateur aux entournures, certes, et c'est peut-être ce qui vaut que Xénophon a eu cette vision, je vais vous dire, de la religion de Socrate. Pour Xénophon, peut-être un peu conservateur, donc n'imaginant pas deux secondes un Socrate impie. Pour Xénophon, son maître Socrate était pieux, il priait les dieux, il l'a rapporté donc dans un de ses ouvrages, et selon Xénophon toujours, Socrate prouvait même l'existence des dieux par la finalité de l'univers. Donc, faut-il croire Xénophon? Ou au contraire, faut-il croire Aristophane, l'auteur de comédie Aristophane, qui, dans Les Nuées, présente Socrate comme un homme, j'allais dire, qui ne croit ni ciel ni enfer, pour reprendre l'expression de Sganarelle, effrayé par Don Juan. Donc, Aristophane présente dans Les Nuées Socrate comme un homme qui nie l'existence des dieux, à commencer par Zeus. Zeus, ça n'est jamais qu'une blague, en quelque sorte, une farce pour le populaire un peu trop crédule, laisse entendre Aristophane, du moins, c'est ce que penserait Socrate selon Aristophane. Aristophane met en scène un Socrate, quand on le voit apparaître, il est un peu en lévitation, sur une espèce de couffin, il plane. Donc, quelque chose comme un gourou, mais d'une secte philosophique plutôt que religieuse. Et selon Aristophane, Socrate ne croit qu'en trois formes de divinité. Ah, divinité, donc il n'est pas impie, mais c'est bien pire encore en réalité. Trois formes de divinité qui seraient le vide, pas très rassurant sur le plan religieux, la langue. On voit ici l'attaque contre Socrate qui serait un sophiste, selon Aristophane. Le vide, la langue, et troisième forme de divinité, les nuées, c'est-à-dire les nuages. Divinité, on l'avouera, très inconsistante et extrêmement évaporée. Reste à savoir, bien évidemment, et c'est toute la difficulté avec une comédie d'Aristophane, quelle est la part du jeu, celle de la part de l'amusement comique, quelle est la part aussi des racontards qui font de Socrate à cette époque un sophiste, lui qui a été par la suite présenté par Platon comme le pourfendeur des sophistes. Donc, il est difficile de se faire une image exacte de la religion de Socrate entre l'opinion d'une forte piété selon Xénophon et l'opinion d'une impiété scandaleuse à rebours de la tradition selon Aristophane. Je reviens un instant à Aristophane. Toujours est-il que Aristophane manifestement a dû contribuer, s'il ne l'a pas même créé, mais il l'a probablement repris dans un fond ambiant, Aristophane a dû contribuer à diffuser une certaine image négative de Socrate qui a joué lors du procès du sage. On a conservé, en tous les cas, quelle que soit la position religieuse de Socrate, on a conservé, fort heureusement, le texte de sa condamnation. Je lis. Socrate est coupable de ne pas croire aux dieux reconnus par l'État. C'est le premier motif d'accusation et de condamnation. Socrate est coupable de ne pas croire aux dieux reconnus par l'État et d'introduire de nouvelles divinités. Il est en outre coupable de corrompre les jeunes gens, peine la mort. C'est Diogène Laërce, une fois encore, qui est notre source. Une fois de plus, on peut penser que derrière ces accusations religieuses, la politique a probablement été cause du procès de Socrate. Pourquoi ? Socrate est un démocrate sincère et courageux, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Face aux 30, donc le régime oligarchique des 30, il a osé se lever dans une assemblée et dénoncer une parodie, dans un épisode douloureux de la démocratie athénienne lors de la guerre du Péloponnèse, il a osé se lever et dénoncer une parodie de justice. Donc il s'est montré courageux. Mais face aux 30 aussi, il est resté lui-même et il a franchement affirmé ses opinions. C'est-à-dire qu'il a été démocrate plus que quiconque soit démocratie en rappelant les vrais principes démocratiques, pas de parodie de justice, une vraie justice. Il a été démocrate aussi, au péril de sa vie, face au régime oligarchique des 30. Socrate était donc démocrate, oui, mais il avait autour de lui des gens qui étaient suspects, entachés d'oligarchie, et même parmi eux, certains se sont compromis, ont participé au régime des 30. Et d'une certaine façon, on peut penser que derrière l'accusation religieuse, il y a un procès politique qui est fait. Je vais essayer de ne pas être trop compliqué. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le procès de Socrate intervient en 399 avant Jésus-Christ. 5 ans auparavant, il y a eu cet épisode oligarchique des 30. 30 oligarques qui se sont emparés du pouvoir. J'ai un peu l'impression d'être la voix du général de Gaulle, mais bon, bref. Non pas un quarteron, mais une trentaine d'oligarques à la retraite qui s'emparent du pouvoir. 404, donc, un peu moins d'un an d'oligarchie, et puis la démocratie est rétablie. Bon, mais simplement, ce qu'il faut voir, c'est que la démocratie a été rétablie avec une amnistie générale. Un décret, encore un, a été adopté. Nul ne devait pourchasser les oligarques, c'était à ce prix qu'on pouvait faire la paix, un peu si j'ose dire, comme si en Argentine, et je dis comme si, je crois que c'est ce qui s'est passé, après la chute de la junte, pour essayer d'avoir la paix, on avait dit, eh bien, surtout pas de procès. Après tout, Pinochet a terminé ses jours sans un seul procès. Donc, même chose pour les oligarques à Athènes. Quel est le rapport avec Socrate ? Eh bien, Socrate, qui avait eu le tort d'avoir parmi ses disciples des partisans de l'oligarchie ou bien des oligarques avérés, eh bien, Socrate, semble-t-il, a très largement payé pour ses amitiés suspectes, puisqu'on ne pouvait pas faire de procès aux oligarques. Atteindre Socrate, c'était une façon, en quelque sorte, pour les ultra-démocrates de se venger de cet épisode oligarchique. Donc, derrière la religion, une fois de plus, l'intolérance, me semble-t-il, est encore une fois politique. C'est décourageant, je sais bien, puisqu'on essaie de traquer l'intolérance religieuse, et pour l'instant, rien en vue. Non, vraiment non. Il semblerait que l'intolérance ne soit pas un trait de la religion polythéiste grecque, en dehors, encore une fois, du strict respect des dieux de la cité et de motifs de prétexte religieux pour des raisons politiques. Curieusement, et là je ne suis pas très sûr de ne pas sortir dans 3 minutes avec des plumes et du goudron comme dans les meilleurs Lucky Luke, curieusement, s'il y a intolérance, à mon avis, elle est plus à chercher, non pas du côté de la religion, mais du côté de la philosophie. Assis à la droite de Dieu le Père, j'ai le droit de rester sur mon siège, je te remercie Didier. Pourquoi ? Eh bien parce que à la suite de Socrate, donc les écoles philosophiques se sont multipliées les unes après les autres, platonisme, aristotélisme, cynisme, stoïcisme, épicurisme, j'arrêtméisme, on peut-être en trouver d'autres encore, et ces écoles religieuses ont souvent montré ou subi des attitudes de condamnation de la part des autres écoles. Pourquoi ? Eh bien parce que apparaît dès lors la recherche de la vérité. Et ça, j'allais dire, c'est extrêmement dangereux. La recherche de la vérité, et surtout quand on croit la détenir, c'est dangereux pour les autres. La recherche de la vérité s'est accompagnée d'une virulence que nous avons peut-être un peu oublié quand nous lisons des textes de philosophie antique, avec la paix qu'a accordée la distance dans le temps. Les anathèmes ont pu surgir dans les bouches de directeurs de telle ou telle école philosophique ou sous la plume de philosophes. Et un mot du vocabulaire philosophique apparaît à cette époque, un mot qui en soi ne marque pas l'intolérance, mais qui va ensuite s'entacher de cette idée de tolérance. Je veux parler du mot d'hérésie. L'hérésie, mot extrêmement intéressant s'il en est. Hérésie, airesis en grec, ça signifie le choix. Que voilà un joli mot. Comme on aimerait pouvoir être dans l'hérésie à longueur de temps. L'hérésie, c'est le fait de choisir telle ou telle école philosophique. Donc ce mot, au départ, n'a absolument rien d'intolérant, encore une fois. Mais il y a tout de même des bouffées d'intolérance qui apparaissent dans l'histoire de la philosophie post-socratique, d'une manière épisodique, bien sûr. Elles sont le fait d'individus et non pas des diktats énoncés par telle ou telle secte philosophique, j'allais dire endiablée si j'ose, en tout cas enragée. Donc ça tient plus aux hommes qu'aux écoles elles-mêmes, mais tout de même il y a un germe d'intolérance dans les philosophies qui apparaissent au IVe siècle. Dieu merci, si j'ose aussi. Dieu merci merci à Socrate. On en reste pour cette intolérance-là, intolérance philosophique. C'est une notion sur laquelle on peut bien sûr ne pas être d'accord. Parler d'intolérance philosophique, mais je crois qu'on peut le prouver. On en reste, Dieu merci, uniquement au stade de la parole, de l'invective, d'élasie. Il n'y a pas de dommages physiques sur les adversaires qui sont frappés, mais uniquement d'anathèmes par des paroles. Toujours est-il qu'il apparaît déjà quelque chose qui peut-être sera une des sources de l'intolérance religieuse avec l'apparition du monothéisme qui lui aussi recherche la vérité et prétend la posséder. J'ai résisté une première séance de Plume et de Goudron. Je vais être joueur. Platon, sur lequel régulièrement... au détour d'un couloir, j'apostrophe mon cher Didier. Platon est vu par Georges Minou. Alors, je ne vais pas dire que Georges Minou a forcément raison, mais l'enquête est minutieuse et intéressante. Georges Minou voit Platon, dans son histoire de l'athéisme, comme, je cite, je suis assis, le père de l'intolérance et de la répression de l'athéisme. Platon s'inquiète à son époque, au IVe siècle. Platon s'inquiète du nombre croissant, du nombre important d'athées dans le monde grec. Cela, c'est dans le livre 10 des lois. Pour le philosophe, pour Platon, l'athéisme provoque l'immoralité et l'incivisme. Un pont est franchi. L'athéisme, c'est une source de permissivité que s'accorderaient les athées. Au nom d'un raisonnement logique, faute de Dieu, les athées pourraient s'abandonner à leurs instincts en suivant la nature. Si Dieu ou les dieux n'existent pas, tout est permis. Et dans le système platonicien, donc il n'y a pas qu'une condamnation de l'athéisme, dans le système platonicien, la loi morale des hommes n'a de sens que par la loi divine, qui est une sorte de garantie transcendante et absolue. Dans le même livre 10 des lois, Platon prévoit un internement et une rééducation des athées. Oui, internement et rééducation, une sorte de Guantanamo de la cité idéale, si j'ose dire. Ou bien encore une incarcération à vie pour ceux qui sont les plus invétérés des athées. Ceux qui semblent guérissables, eh bien, on les rééduque, mais s'ils se montrent récidivistes, eh bien, il est prévu une condamnation à mort. Ça calme l'athéisme. Parmi les athées visés par Platon figurent en très bonne place les partisans de l'atomisme de Démocrite, qu'on va retrouver plus tard comme cible du christianisme. Je passe maintenant à la civilisation romaine. Alors, le latin, à la différence du grec, a un mot pour désigner la religion, c'est tout simplement « religio », d'où nous vient notre français « religion ». Ah, nous voilà rassurés, eh bien non. Non, parce que, tout d'abord, ce terme n'est pas exclusif d'autres mots comme « cultus », le culte, le soin à proprement parler accordé aux dieux. Et du reste, le mot religio n'est pas si simple qu'il paraît l'être. L'étymologie du mot religio fait débat, et ce débat existe depuis l'Antiquité elle-même. On va commencer par ce qui est ultérieur pour revenir à ce qui est antérieur. Vous allez voir pourquoi. On va commencer par les auteurs chrétiens, à partir de Lactance, un poète, et de Tertullien, une sorte d'ayatollah des premiers âges du christianisme. Je pourrais le prouver avec virulence s'il le faut. Donc, à partir de Lactance et de Tertullien, à partir de ces auteurs chrétiens, les auteurs font venir religio du verbe religare, R-E-L-I-G-A-R-E. Alors, il ne s'agit pas d'une proposition subliminale de cours de latin, rassurez-vous, mais on va faire un tout petit peu de latin pour essayer d'y voir clair. Donc, religio, selon Lactance et Tertullien, viendrait de religare, qui signifie relier. Ce qui, selon eux, soulignerait ainsi le lien établi par la religion entre l'homme et le divin. La religion, ça serait donc ce lien entre homme et divin. Ce qui soulignerait donc le caractère soit affectif, soit effectif de la religion, affectif dans l'élan du croyant vers Dieu, ou effectif à travers les différents effets des pratiques religieuses. Mais une autre étymologie a été proposée avant ces auteurs chrétiens par Cicéron, qui connaissait suffisamment le latin pour qu'on l'écoute avec attention. Cicéron, dont le caractère philosophique est indéniable, mais qui était aussi extrêmement scrupuleux sur le choix des mots et sur leur origine. Pour Cicéron, religion viendrait non pas de religare, il ne parle pas de ce verbe, mais bien selon lui de relegere. R-E-L-E-G-E-R-E, ça fait beaucoup de E. Relegere, qui signifie quelque chose comme revenir par la pensée sur ce qu'on a fait. Donc une sorte de retour en arrière, de réflexion rétroactive. On revient en arrière sur ce que l'on a fait. De fait, pour apporter de l'eau au moulin de Cicéron, religio a d'abord le sens de scrupule, de soin minutieux, de ferveur inquiète, c'est-à-dire quelque chose sur quoi, effectivement, on peut revenir pour savoir si on a bien agi envers les dieux. Toujours est-il que dans cette explication cicéronienne, donc religio, retour par la pensée sur ce que l'on a fait, il n'y a pas de relation explicite avec le sacré. Et ce n'est que par extension de sens que religio en arrive assez naturellement du reste à désigner l'observance minutieuse des rites, non seulement le scrupule, mais aussi la façon dont le scrupule s'applique aux rites, et de là la religion de manière plus large. Donc, relation avec Dieu, c'est la lecture étymologique chrétienne, ou observance rituelle méticuleuse, la divergence étymologique à elle seule résume deux approches très différentes de la religion, l'approche de la religion selon les polythéistes romains et l'approche selon les chrétiens, l'approche du christianisme. Alors, une fois posée cette difficulté étymologique et cette divergence fondamentale entre polythéistes et chrétiens, je vous propose de voir maintenant, le moins longuement possible, la religion romaine. Cette religion romaine, traditionnelle, polythéiste, offre de nombreux points communs avec la religion grecque. Ce qui est du reste extrêmement logique, puisque les deux peuples sont issus, romains et grecs, d'un même groupe de population, les Indo-Européens, avec donc un fond de croyance commune. Et il n'est pas étonnant de trouver, dès lors, les mêmes dieux, ou en tout cas bon nombre de dieux identiques ou au moins comparables chez les deux peuples. Soit le nom est exactement le même, le nom des dieux est exactement le même, soit le nom change, mais j'allais dire ça ne change pas grand-chose à l'arrivée. Il y a pu y avoir des évolutions phonétiques, des évolutions linguistiques qui font diverger le nom d'un dieu chez les Grecs et le même nom chez les Latins. Entre-temps, depuis la séparation des deux peuples, il y a pu y avoir d'autres noms qui sont apparus, mais d'une façon générale, les Romains se retrouvent très facilement dans le panthéon des Grecs. Pourquoi ? Eh bien parce que les attributions de ces dieux sont identiques. Ainsi, Aphrodite en Grèce ou Vénus sous un autre nom sont déesses de l'amour chez les Grecs et chez les Latins. Neptune, on le sait, est le dieu de la mer pour les Latins, pour les Grecs. Il porte un autre nom, c'est Poséidon, mais avec les mêmes attributions. Ou encore Arès pour les Grecs, Mars pour les Latins, dieu de la guerre. Athéna ou Minerve, déesse de l'intelligence. Et du reste, cette similitude est renforcée par une pratique qui existait déjà chez les Grecs, mais qui est encore plus forte chez les Romains, la pratique de l'interprétatio. L'interprétatio, ça n'est pas l'interprétation, c'est un faux ami. L'interprétatio consiste à assimiler des dieux étrangers, en particulier des dieux grecs, à la suite de l'hellénisation de la culture romaine, les assimiler à des dieux romains, donc établir un pont, un peu comme une conversion de monnaie, sans plus de difficultés, sans dévaluation aucune des dieux romains par rapport aux dieux grecs. Au contraire même, avec l'hellénisation et l'interprétatio, cette acclimatation en quelque sorte des dieux grecs, de certains dieux grecs à Rome, eh bien avec l'interprétatio, la religion romaine récupère, si j'ose dire familièrement, le prestige et l'épaisseur dramatique et psychologique que les Grecs ont su dans leurs mythes donner aux dieux anthropomorphes. Donc, les dieux romains deviennent plus complexes, plus riches. Ça n'est que bénéfice pour la religion romaine. Pour ce qui est des fonctions de la religion, là encore, Rome est tout à fait comparable au monde grec. Les dieux sont là aussi protecteurs de l'État. Là encore, rien de majeur ne peut être engagé, accompli ou encore clos sans invoquer les dieux, sans les solliciter, sans les remercier. Par exemple, avant de livrer une bataille, on doit consulter l'avis des dieux par l'intermédiaire d'un devin officiel. Ou encore, une cérémonie publique, celle du triomphe, qui met en valeur le général en chef qui a remporté une victoire dans certaines conditions très précises, très codifiées, eh bien la cérémonie du triomphe passe par la voie sacrée, ainsi intitulée donc en rapport avec les dieux, la voie sacrée qui amène le triomphateur au temple de Jupiter sur le Capitole. Donc, affaire politique que le triomphe, mais aussi affaire religieuse, sanctionnée au sens propre du terme par la religion. Du reste, la légende fait de Romulus, qui est le fondateur de la ville, la légende fait de Romulus le fils du dieu Mars et le descendant de la déesse Vénus. Belle ascendance des deux côtés. Comme dans les cités grecques, on doit à Rome respecter les dieux de l'État romain, même si à titre personnel, et on en a quantité d'exemples, on voit les hauts personnages de l'État se moquer assez facilement des croyances populaires. Donc il y a la religion pour la plèbe, mais officiellement, on respecte les dieux et on leur rend hommage. On ne saurait en faire autrement. La dimension politique de la religion romaine est peut-être plus forte encore que la dimension politique de la religion grecque. En effet, la carrière politique passe parfois par des fonctions religieuses. Un exemple, un seul. Celui qui était en charge de la religion à Rome, c'était un titre tout à fait officiel, c'était le Pontifex Maximus, qui a laissé au passage son nom dans le christianisme avec la traduction de souverain pontife. Le Pontifex Maximus organisait et contrôlait l'ensemble de la religion publique et supervisait également les cultes privés. Qui a été le premier Pontifex Maximus élu, car c'était une fonction élective à partir d'une certaine époque, eh bien c'était Jules César. Donc, je suis en train de vous dire que François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Barack Obama postulent pour le titre de pape. C'est un petit peu ça à Rome. À cette époque où il a obtenu donc par élection cette fonction de Pontifex Maximus, Jules César avait déjà commencé sa carrière à travers ce qu'on appelle le cursus honorum, c'est-à-dire une série d'étapes qui doivent mener au plus haut degré de l'État, le consulat. Il avait déjà été questeur et puis édile, et puis il fait un crochet, si j'ose dire, par la religion, en devenant Pontifex Maximus, mais c'est bien la preuve que cette fonction religieuse n'était pas que religieuse et qu'elle avait un impact politique. C'était quelque chose d'extrêmement précieux pour la suite de sa carrière. Et après César, qui n'était pas empereur, je le rappelle au passage, tous les empereurs depuis le premier d'entre eux, Octave Auguste, jusqu'à Gratien à la fin du IVe siècle, tous les empereurs ont assumé cette charge religieuse de Pontifex Maximus. Lien fort, là encore, entre la politique et la religion. Fortement lié à la dimension politique à Rome, la dimension juridique. Cette dimension juridique est extrêmement importante. On le sait, les Romains sont des juristes. On connaît l'importance du droit dans leur civilisation. Le droit régit très largement les rapports entre les hommes, bien sûr, mais il régit aussi les rapports entre les hommes et les dieux, ce qui va constituer un caractère assez particulier de la religion romaine. Et tout cela, donc, rapport entre les hommes et les dieux, dans un esprit extrêmement contractuel. Tout peut se résumer dans une formule en trois mots, trois monosyllabes, formule brève, concise et limpide, la formule do, ut, des, deo, plus loin ut, plus loin des, do, ut, des, c'est-à-dire je donne pour que tu donnes. Bon, sortie de son contexte, cette formule, c'est une formule de contrat qui engage les deux parties. Eh bien, cette formule, elle est employée dans le domaine religieux. C'est l'humain qui donne pour obtenir d'un dieu. C'est-à-dire que l'humain offre un sacrifice, il se met à partir de là en droit, il se met en droit de recevoir l'aide de la divinité. Je donne à un dieu, je te donne, divinité, pour que tu m'accordes quelque chose. Il ne s'agit donc pas d'une prière qui s'élève vers le ciel, vers un dieu, dans un espoir incertain, mais il s'agit d'un accord formulé, formalisé par les mots, entre deux parties contractantes, une partie qui énonce et l'autre qui est engagée par la formule de celui qui contracte. L'humain engage le divin. Deux autres notions qui sont absentes du monde grec me semblent particulièrement intéressantes également, pour souligner la dimension juridique de la religion romaine. Ces deux notions sont d'une part la devotio, d'autre part l'evocatio. Devotio, D-E-V-O-T-I-O, devotio, evocatio, E-V-O-C-A-T-I-O, notion juridique dans un cadre politique. En quoi ces notions consistent-elles? Alors, on a un exemple de devotio dans les textes que je vous ai proposés, textes de Tite Live, et un exemple d'evocatio sur la même feuille. Commençons par la devotio. La devotio est une notion impossible à traduire en français. Devotio a donné dévotion, bien sûr. Mais ça serait un contresens absolu que de traduire devotio par dévotion. La dévotion est un acte personnel, intime, c'est tout le contraire à Rome. La devotio, c'est tout à la fois un vœu de sacrifice et un engagement. Il s'agit d'une notion très précise, il s'agit de la libre décision d'un général romain de se sacrifier en même temps que l'armée ennemie aux divinités infernales, précisément au dieu Tellus, le dieu de la terre, et au Man. Dans quelles circonstances? Eh bien, quand une bataille est incertaine ou compromise, un général en chef peut sortir son super joker, si j'ose dire, la puissance divine, et obtenir des dieux la victoire pour l'armée romaine, en se vouant aux divinités infernales et en vouant par la même occasion l'armée ennemie. Quel est le raisonnement? Raisonnement juridique. Le raisonnement est que si les dieux acceptent la mort du général en chef, s'ils acceptent une partie du contrat, il faut bien qu'ils acceptent l'autre partie. Et dans ce cas, ils sont obligés de sacrifier l'armée ennemie. Et donc, en se sacrifiant lui-même, le général en chef obtient la victoire pour son armée au détriment de l'armée ennemie. Là encore, si j'ose dire, les dieux sont un peu piégés, un peu engagés par ce contrat. Que fait le général en chef? Eh bien, donc, il prononce la formule de devotio, avec l'aide donc, d'un personnel religieux, si j'ose dire, d'un membre du clergé, ou du moins d'un aruspice. Il accomplit les gestes rituels et après, que fait-il? Eh bien, il se lance au combat sur son cheval au milieu des ennemis avec le but avéré de se faire massacrer au milieu de l'armée ennemie. Donc, il se sacrifie il sacrifie sa vie, mais bien au-delà, il attire sur lui l'aide des dieux en attirant la victoire pour son camp. La Devotio, donc on a quelques exemples dans l'histoire romaine. La Devotio, ça n'est ni plus ni moins, me semble-t-il, dans une circonstance certes éminemment particulière, critique, une circonstance poussée à un degré extrême, ça n'est ni plus ni moins qu'une application du Deus Dei. Je te donne, divinité, ma vie et même ma vie dans l'au-delà, mais toi, en revanche, tu me donnes la victoire pour mon armée. Deuxième notion, l'évocatio. Alors ça, c'est, je trouve ça absolument magnifique. Les armées modernes ont oublié de la pratiquer, je pense que elles auraient intérêt à le faire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, là encore, on est en situation de guerre. L'évocatio qui a donné évocation, là encore, on ne peut pas le traduire par ce terme si proche en français. L'évocatio, c'est le fait d'évoquer, c'est-à-dire d'appeler au dehors, les dieux d'une cité ennemie dont les Romains sont sur le point de s'emparer, ou plus exactement, l'évocatio consiste à les appeler à sortir de cette cité et à rejoindre Rome, où elles auront désormais leur place. On en a donc, je vous en ai proposé un extrait, on en a une description parfaite sous la plume de l'auteur Macrobe. Donc, on appelle les dieux à quitter, les dieux des ennemis à quitter la place que l'on va prendre et à venir à Rome. Quelle est la finalité de cette pratique ? Eh bien, la finalité est double. Il s'agit d'une part de ménager les dieux des ennemis, c'est quand même plus prudent avant d'attaquer la ville, de ne pas subir leur puissance hostile, et il s'agit aussi d'accroître la puissance divine favorable à Rome. Que font les Romains avec l'évocatio ? Eh bien, ils font, d'une certaine façon, ce qu'ils font aussi avec les peuples qu'ils conquièrent. Les Romains font avec les dieux des ennemis ce qu'ils font avec leurs ennemis vaincus. Ils les assimilent pour accroître la puissance de leur empire. De même que les Romains ont, en l'espace de la même journée, disait-on, faisaient des ennemis du matin, des alliés et des auxiliaires de Rome l'après-midi même, et bien de la même façon, les dieux naguère hostiles deviennent favorables. Et là je vois, dans l'évocatio, donc une forme extrême de tolérance polythéiste, donc venez à Rome, vous y serez bien accueillis, une tolérance par calcul politique. Avec l'instauration du régime impérial lorsque disparaît la République dans les guerres civiles, au 1er siècle avant Jésus-Christ, la religion est une fois de plus employée au service de la politique, avec une pratique particulière, l'apothéose et le culte de l'empereur. L'apothéose, c'est un mot grec, mais qui correspond aussi à une réalité romaine. Littéralement, apothéosis, c'est transformation en Dieu. Le terme romain est le terme de consecratio, c'est-à-dire le fait de rendre sacré un dieu. L'apothéose est accordée sur décision du Sénat, politique là encore. Imagine-t-on l'apothéose d'un président de la République sur décision des deux chambres réunies à Versailles. L'apothéose est la divinisation sur son bûcher funèbre d'un empereur. Ça s'accompagne là aussi d'une cérémonie, pour ainsi dire, pour mieux dire, d'une véritable mise en scène qui solennise la chose. L'empereur, une fois devenu dieu officiellement, rejoint les autres dieux du panthéon. L'empereur reçoit un culte officiel, politique, religion, une fois de plus. Et le culte impérial est, pour certains empereurs même, célébré de leur vivant. Par exemple, Néron, ce qui n'étonnera personne. Comme en Grèce, donc, la tolérance est grande, si on veut résumer, la tolérance est grande à Rome sur le plan religieux, tant que l'État n'est pas menacé à travers la critique ou la négation assénée des dieux de l'État. Donc, tant qu'on les respecte, tout va bien. La religion est omniprésente dans la civilisation romaine, dans les activités publiques, on l'a vu, mais aussi dans la vie privée la plus quotidienne. Un exemple, à l'intérieur, des maisons romaines, se trouve un autel consacré au lar, c'est-à-dire aux dieux domestiques. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, à tous les moments de la journée et de leur vie. Les Romains sont extrêmement religieux à cet égard, dans presque toutes leurs activités. Croyances, rites, cérémonies, prières, pratique divinatoire, j'ai un peu l'impression de vous vendre un prospectus, ça n'est pas un flyer pour la religion à Rome. Pratique divinatoire magico-religieuse, temple, statue, statuette, la religion sous toutes ses formes imprègne le quotidien de Rome et des Romains. La religion, mais aussi une religiosité diffuse, et peut-être en cela Rome a-t-elle manifestement, enfin je dis peut-être, manifestement plutôt, Rome a gardé l'influence de ses puissants voisins et anciens dominateurs du Nord, que sont les Étrusques, avec une religiosité donc qui imprègne la mentalité romaine en dehors même, et sans exclusive, en dehors même de tout ce qui a un caractère beaucoup plus officiel. Les dieux sont partout présents. Et saint Augustin n'a pas manqué dans son ouvrage « La cité de Dieu », c'est au livre 4 au chapitre 8, saint Augustin n'a pas manqué d'ironiser sur la multiplication à l'infini des dieux de Rome, à l'infini et même infinitésimale. Il y avait tellement de dieux, paraît-il, que les Romains eux-mêmes, enfin je dis paraît-il, les Romains eux-mêmes avaient gardé le nom et parfois ne savaient plus à quoi correspondaient les dieux. On a des dieux comme ça, dont on a gardé le nom et on ne sait plus vraiment ce qu'ils faisaient, à quoi ils servaient, mais on leur rendait encore un culte parce que surtout il ne fallait pas se les rendre hostiles. Si ça ne sert à rien, ça ne fera toujours pas de mal. Donc saint Augustin est ironisé et en particulier donc, dans la cité de Dieu, il montre comment il y a jusqu'à 7 dieux depuis la germination jusqu'à la moisson, 7 dieux différents qui interviennent pour la nouaison de l'épi, pour ceci, pour cela, 7 étapes, donc mieux qu'une chambre d'agriculture veillant à la qualité des productions agricoles. Évidemment, saint Augustin n'a pas manqué d'ironiser contre le ridicule de ces dieux-là. Au fil des siècles, à mesure que la puissance romaine s'étend sur le reste de l'Italie, puis sur les rives de la Méditerranée, plus loin encore, à mesure que Rome s'ouvre à d'autres cultures, apparaissent de nouveaux dieux. En particulier, et c'est intéressant à noter je crois, les cultes à mystère, les religions de salut qui répondent à un besoin à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, un besoin croissant, culte d'Isis en particulier venu d'Égypte, mais aussi christianisme. À cette époque, en effet, apparaît le besoin d'une vie dans l'au-delà, un espoir du moins d'une vie dans l'au-delà, ce qui correspond à une mentalité différente des représentations traditionnelles qui apparaissent désormais insuffisantes. On ne se contente plus des vieilles croyances, si j'ose dire. Dans un esprit particulier aussi, disons un mot du culte de Mithra, culte très ancien, venu de Perse, mais qui arrive plus tardivement à Rome et qui se développe en particulier dans l'armée. Le culte de Mithra donc se développe en particulier au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Les modifications donc du panthéon et de l'horizon religieux romain, à mesure que se font les conquêtes romaines à travers le monde, donc ces évolutions ne sont pas sans entraîner quelques grognements de la part des vieux romains, des partisans de la tradition. Que ce soit Caton ou encore le satiriste Juvénal qui s'en font l'écho, qui trouvent que Rome n'est plus dans Rome, qu'on trouve tous les dieux et plus assez les dieux des ancêtres. Toujours est-il que le mouvement est inéluctable et au cours de la période impériale, le magasin des cultes, une sorte de sect shop si j'ose dire, le magasin des cultes est de plus en plus achalandé, je m'imagine volontiers donc la vente de statuettes comme un immense supermarché, vous savez, quand vous êtes devant le rayon jus de fruits, enfin vous je sais pas, mais moi je préférais qu'on m'impose un seul produit à la limite, mais on a l'embarras du choix. Je crois que les Romains avaient l'embarras du choix en matière de religion, et de plus en plus au fil du temps. Alors dans ces conditions, bien évidemment, me semble-t-il, la tolérance envers la religion des autres, c'est un fait de tous les instants. Donc toutes les religions se côtoient, et chaque religion a quantité de dieux. Que dit la philosophie au sujet de la religion? Je ne parlerai que de deux des plus grands courants de pensée, le stoïcisme et l'épicurisme. Les attitudes sont différentes. Le stoïcisme croit en l'action de la providence, il préconise l'élévation de ses disciples vers le divin, et simplement les stoïciens se moquent des croyances grossières que certains peuvent avoir dans des dieux trop humains dans leur caractère comme dans leurs actions. Pour le reste, le stoïcisme accepte le fait religieux, il y participe même à sa façon, en lui donnant une puissante dimension spirituelle, le Dieu et l'âme du monde selon les stoïciens. De son côté, l'épicurisme a trouvé à Rome, l'épicurisme donc qui vient d'Épicure, philosophe grec, l'épicurisme a trouvé à Rome un de ses plus grands porte-paroles avec le poète Lucrèce, dans son ouvrage De la nature. L'épicurisme ne nie pas l'existence des dieux, j'allais dire officiellement, après on peut s'interroger pour savoir si c'est une position prudente ou si c'est de la part de Lucrèce quelque chose qui en fait est sincère. L'épicurisme donc ne nie pas l'existence des dieux, mais il place ces dieux dans des régions très lointaines de l'univers, sans action sur la vie des hommes, une sorte de, comment dire, de club méditerranéen intergalactique où les dieux vivent leur vie tranquillement, sont heureux, mais ne dérangent pas les hommes, n'interviennent pas. L'épicurisme donc vise à libérer les hommes de la peur des dieux, de la peur religieuse, de la superstition, à les en libérer par la raison et non pas à en interdire le culte. Donc je crois qu'il y a dans l'épicurisme quelque chose de fondamentalement tolérant, puisque l'épicurisme fait appel à la raison. Lucrèce ne cherche d'essayer de prouver la théorie de l'atomisme, le prouver par la raison et non pas l'imposer par la terreur. Reste maintenant à aborder, pour ceux que je n'aurais pas encore tout à fait endormi, veuillez m'excuser, reste à aborder un dernier point majeur, celui des relations entre d'une part l'État et la religion romaine polythéiste et d'autre part le ou les monothéismes. Depuis la conquête d'Alexandre à la fin du IVe siècle, depuis la domination grecque sur la Judée, depuis Alexandre donc et ses épigones, sur la Judée et sur d'autres territoires, le judaïsme est saisi de fièvre, traversé de courants, de désaccords, de révoltes, parce qu'il y a d'un côté ceux qui s'hellénisent parmi les juifs, qui deviennent de plus en plus grecs dans leur façon de parler, de s'habiller, d'aller à la palestre, donc d'aller pratiquer des activités physiques. Et puis il y a d'un autre côté ceux qui veulent résister et conserver une foi et une pratique tout à fait traditionnelle. Quand Rome, prenant la relève, si j'ose dire, des successeurs d'Alexandre, quand Rome devient à son tour maîtresse de l'Orient, se pose une grave question au judaïsme et à Rome. Cette grave question, cette pierre de touche, c'est la question du culte de l'empereur. Pour les juifs, il n'existe qu'un seul dieu, Yahvé, et c'est à lui seul qu'un culte peut et doit être rendu. Donc on ne saurait, quand on est juif, rendre un culte à l'empereur. De son côté, Rome ne peut pas accepter, ne peut pas politiquement accepter une exception religieuse qui deviendrait une exception politique, qui prendrait toutes les apparences d'un refus de soumission à son autorité. Refuser de sacrifier à l'empereur, de vouer un culte à l'empereur, c'est finalement, d'un point de vue politique pour Rome, un acte de rébellion. Comment faire ? Question houleuse qui fait finalement l'objet d'un compromis. Ouf ! Ce compromis, c'est que Rome accepte que chaque jour, les Juifs offrent, non pas à l'empereur, mais à leur Dieu, un sacrifice pour la prospérité de l'empereur. Voilà, on a trouvé un biais. Il y avait de bons négociateurs à l'époque. Il n'empêche que sous cet habile arrangement officiel, le judaïsme lui-même, au-delà du clivage entre judaïsme et Rome, le judaïsme lui-même est divisé. Divisé en quatre sectes selon Flavius Joseph. Bon, je vais passer les détails. Toujours est-il que ces quatre sectes, qui sont les Sadducéens, les Pharisiens, les Esséniens et les Zélotes, terme grec pour désigner en fait ce qu'on pourrait appeler la mouvance radicale, hein. Zélo, c'est faire preuve de zèle, être ardent, donc les radicaux. Ces quatre sectes, donc, ont différents points de vue sur la religion, différentes pratiques. Il y a aussi là-dessous des clivages sociaux, différentes couches de la population juive. Toujours est-il que ce sont les Zélotes qui, en 66 après Jésus-Christ, prêche une révolte contre Rome qui très vite devient la première guerre judéo-romaine, laquelle dure quelques années. La guerre prend fin en 73, façon de dire au passage, bien évidemment, que cette histoire de culte rendu à l'empereur par l'intermédiaire du sacrifice rendu à l'empereur par l'intermédiaire de l'adoration du seul Dieu, ça n'était pas si simple que ça dans la pratique. En 73, je ne vais pas vous accabler de dates, mais j'ai juste quelques-unes. En 73, donc, la guerre judéo-romaine prend fin avec la prise célèbre de la citadelle de Massada. Les derniers zélotes se donnent la mort plutôt que de se rendre. Le second temple de Jérusalem avait été détruit dès 70, ce qui avait marqué la fin de l'État hébreu. Des populations sont déplacées, c'est la fameuse diaspora, mais le judaïsme à vous de choisir, le judaïsme se perpétue à travers de nombreuses communautés juives, souvent importantes sur le territoire de l'Empire. C'est-à-dire que le judaïsme se répand d'autant plus que la diaspora essaime. Voilà donc pour le judaïsme. Et maintenant le christianisme. Le christianisme est issu du judaïsme et il en a très vite été écarté par le judaïsme. À partir du moment où Paul donne une inflexion particulière au christianisme, en lui donnant une vocation universelle qui est incompatible avec le caractère finalement proche des autres religions, le caractère national du judaïsme. Le judaïsme, c'est un monothéisme, mais essentiellement national, comme les différents polythéismes des Grecs, des Romains et des autres peuples. Et donc le christianisme introduit une dimension nouvelle, monothéisme comme le judaïsme, mais à caractère universel. Le christianisme s'est peu à peu développé dans les deux premiers siècles dans l'Empire romain, d'abord par les humbles, ensuite par capillarité le christianisme s'est élevé dans l'échelle sociale, notamment parce que, semble-t-il, il répondait à ce fameux désir de salut qui animait cette époque depuis le premier siècle avant Jésus-Christ. Religion suspecte, accusée de bien des maux et de bien des perversions, dont des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants, accusée également du fameux incendie de Rome sous Néron, le christianisme a régulièrement fait l'objet de la surveillance des autorités. L'affiche S, si j'ose dire, aurait été, sérieusement parlant, à l'époque, pour les chrétiens, on les regardait du coin de l'œil. On a gardé une lettre extrêmement précieuse qui a été très très abondamment citée, la lettre de Pline le Jeune et la réponse à Trajan, qui fait partie des feuilles que je vous ai proposées, enfin des pages que je vous ai proposées. La situation est la suivante, un gouverneur consulte d'une province, un gouverneur romain, à savoir Pline le Jeune, consulte l'empereur Trajan pour savoir s'il a adopté la bonne attitude face aux chrétiens, une répression modérée, comment faire ? Donc, en quelque sorte, un préfet qui écrit à son ministre de tutelle, au ministre de l'Intérieur, comment faire face à un problème à la fois religieux et politique. Avec le christianisme, là encore, se pose la question du culte de l'empereur. On a longtemps parlé de persécution. Le cinéma hollywoodien, par l'intermédiaire des martyrs de Chateaubriand, le cinéma hollywoodien s'en est emparé pour quelques très belles scènes donc de chrétiens jetés au lion, Quo Vadis, etc. Qu'en est-il en réalité ? Eh bien, manifestement, parler de persécution, ce serait, selon les historiens actuels, ce serait abusif. Et il faudrait plutôt voir dans ces récits de persécution des signes d'écrits hagiographiques, voire apologétiques, de Zeb de Césarée. Hagiographiques pour transformer les martyrs chrétiens en saints, apologétiques dans la mesure où, si la religion chrétienne a survécu et s'est développée, c'est bien la preuve qu'elle était la vraie religion, puisque Dieu l'a aidée malgré ses épreuves. Donc Eusèbe de Césarée, pendant longtemps, Eusèbe de Césarée, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, a longtemps fait foi pour ce qui est de l'histoire des persécutions. La religion chrétienne, qu'en est-il en réalité ? Eh bien, elle est interdite dès le 1er siècle, interdite mais tolérée. Comme quoi, les Romains, eux aussi, il n'y a pas que les Athéniens, les Romains, eux aussi, sont assez français. Interdite mais tolérée, plus ou moins, tant qu'elle ne dérange pas. C'est-à-dire qu'on marque une certaine limite, mais en même temps, la pratique est plus souple. Dans les premiers temps, du reste, le pouvoir romain ne fait pas de différence entre chrétiens et juifs, puisque les chrétiens sont une émanation du judaïsme. Pour les Romains, le christianisme, ça n'est jamais qu'une secte juive parmi d'autres. Durant les deux premiers siècles, donc, on relève ici ou là des répressions locales contre les chrétiens, au motif, pourquoi après tout les persécuter, non pas les persécuter mais les réprimer, au motif que leur obstination les isole de la communauté sociale et que, de ce fait, ils deviendraient fauteurs de troubles dangereux pour l'ordre public. Donc, les chrétiens brisent l'unité de l'Empire. À partir du IIIe siècle, la question chrétienne évolue fortement. La critique que les chrétiens font de certaines pratiques, de certains usages de Rome, entre autres les jeux du cirque ou encore la hiérarchie sociale établie à travers, entre les hommes, cette critique de la part des chrétiens se fait de plus en plus audible ou bien elle est de moins en moins admissible par les autorités. Les chrétiens sont un peu trop gênants ou bien un petit peu trop clairs dans leur dénonciation, semble-t-il, à cette époque. Les répressions prennent alors la forme de supplices. Donc, est-ce qu'on peut parler de persécution ? Oui, mais peut-être non, encore une fois, parce qu'on a pu remarquer que finalement, les chrétiens étaient des suppliciés parmi d'autres. Il y en avait bien d'autres qui terminaient dans la gueule d'un lion sans avoir été chrétiens, bien d'autres qui mouraient atrocement dans l'arène. De plus, il n'y a pas eu de volonté politique systématique d'éradication des chrétiens par l'extermination. On a gardé l'exemple de persécution, je mets des guillemets, au IIIe siècle, persécution de l'empereur Dèce vers 250, mais cette prétendue persécution s'est limitée au cercle de l'entourage du prédécesseur de Dèce, l'empereur Philippe l'Arabe. Philippe avait été assassiné et il semblerait qu'il y ait une opération, si j'ose dire, de police pour essayer de voir, donc de réprimer les chrétiens dans l'entourage de cet empereur assassiné. Que demande-t-on aux chrétiens ? Eh bien, on leur demande de jurer fidélité à l'empereur. Certains, donc, refusent de jurer fidélité à l'empereur, et là, effectivement, ils se mettent dans une mauvaise posture, ils restent fidèles à leur conviction, à leur foi. D'autres jurent, d'autres encore font semblant de jurer, on est à Rome, et donc tout peut s'acheter. Certains obtiennent des certificats en soudoyant des fonctionnaires, c'était à l'époque où on soudoyait les fonctionnaires, temps heureusement révolu. Que viennent faire les fonctionnaires ? Eh bien, ce sont des fonctionnaires qui accordaient, on croit rêver, on peut se pincer, ce sont des fonctionnaires qui accordaient des certificats de fidélité à l'empereur, aux chrétiens. Donc, un chrétien pouvait passer devant un fonctionnaire, ne pas prêter serment, mais en douce graisser la patte du fonctionnaire, et donc obtenir son certificat et repartir. Quant à ceux qui avaient juré leur foi à l'empereur, et qui avaient été apostats, eh bien ceux-là ensuite ont eu des comptes à rendre à l'intérieur de l'Église, et ça a été une source de profonde division et d'intolérance par la suite. Autre persécution, je ne vais pas vous faire toutes les persécutions, rassurez-vous, mais rapidement, une autre répression a lieu sous Valérien entre 257 et 258, c'est très précis, mais cette répression ne touche que les classes supérieures de la société et le clergé. Donc, le chrétien de base, si j'ose dire, est épargné. Signalons aussi au passage que bien souvent, on en a des témoignages, bien souvent quand il allait y avoir une descente de police, si j'ose dire, on informait les chrétiens et en particulier les évêques qui discrètement se retiraient à la campagne le temps de méditer certainement et donc les choses s'arrangeaient. Donc il y avait des complicités et puis on ne voulait pas réprimer systématiquement. Ça c'est le IIIe siècle après Jésus-Christ. En 303 se produit la plus dure répression, celle de Dioclétien. Répression paradoxale, puisqu'à cette époque, les chrétiens sont de plus en plus intégrés dans la société romaine, notamment dans ses élites, avec des officiers dans l'armée. Alors pourquoi, au moment où les chrétiens sont de moins en moins marginaux, pourquoi donc les réprimer plus durement qu'au préalable ? Une explication qu'on peut apporter est que le christianisme est vu ou aurait été vu alors comme une menace contre le culte solaire. Le culte, ça fait un peu secte ce que je raconte, le culte solaire, mais c'est un culte officiel, le culte de Sol Invictus, le soleil invaincu, Sol Invictus, culte qui est officiellement établi à Rome par les empereurs dans la seconde moitié du IIIe siècle. Et là, c'est universalisme contre universalisme, si j'ose dire. La visée politique du culte établi par les empereurs, là encore la politique au service de la religion, la visée politique était notamment d'unifier l'empire, extrêmement vaste et multiple, sans cesse en proie à des divisions, à des dispersions, et donc le soleil, semble-t-il, apparaissait comme une solution pour unifier, par son caractère universel, unifier ou réunifier l'empire. Donc le christianisme faisait une concurrence qui ne pouvait pas être acceptable face à ce culte. C'est peut-être donc la raison de la répression de Dioclétien. La question chrétienne est réglée en 313, j'en ai bientôt fini, courage. En 313, la question est réglée officiellement, date importante. C'est à cette époque, à cette date, qu'est promulgué le fameux édit de Milan, qui est attribué à l'empereur Constantin. Les choses sont plus compliquées. Nous ferons bref. 313, donc, édit de Milan, la ville. Cet édit de tolérance accorde la liberté de culte à chacun et autorise les chrétiens à ne pas vénérer, à ne plus vénérer l'empereur comme un dieu. Donc, Constantin, c'est l'Henri IV des Romains, pour ainsi dire. Toutefois, les historiens ne sont pas sûrs désormais que Constantin lui-même ait adopté le christianisme comme religion personnelle. Donc, est-ce que c'était une mesure politique? Est-ce que c'était l'application au champ politique de ses convictions personnelles? On a bien ensuite, dans le courant du IVe siècle, une tentative de restauration du polythéisme par Julien, qui par la suite a été appelé l'apostat, puisqu'il a renoncé au christianisme dans lequel il avait été élevé. Toujours est-il que, au fur et à mesure, au fil du IVe siècle, donc le christianisme qui était minoritaire à l'époque de Constantin, c'est important à dire, au moment de l'édit de Milan, le christianisme se développe au fil du IVe siècle, et finalement à la fin 313, édit de Milan, liberté de culte, à la fin de ce même IVe siècle, Théodose règle la question autrement. Théodose Ier fait du christianisme la religion officielle, unique de l'Empire. Donc désormais le christianisme est religion officielle. Et en 392, les religions dites païennes sont interdites, commence alors la répression, si vous préférez les persécutions, à chacun de choisir son terme, répression plus ou moins forte selon le lieu, le dirigeant local, etc., répression du paganisme. Le plus grand symbole de cette répression. Symbole dont tu as parlé, je crois, c'est Hypatie. Non, je crois que tu en avais parlé avec Voltaire. Voltaire en a parlé. Hypatie, donc H-Y-P-A-T-I-E, Hypatie d'Alexandrie, est une mathématicienne, une philosophe néoplatonicienne de la fin du IIIe siècle et du début du IVe siècle, un personnage intellectuellement extrêmement brillant, qui a été assassiné, ou qui aurait été assassiné, là aussi, problème de source, par des chrétiens. Donc l'intolérance a changé de camp après ce qu'on appelait les persécutions contre les chrétiens. Elle aurait été assassinée dans des conditions particulièrement atroces, donc démembrée et brûlée. Si vous voulez voir tout en images, c'est la récompense pour avoir veillé jusqu'à cette heure tardive. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Donc il y a un film qui a été tourné assez curieusement il y a quelques années, qui a reçu le titre, j'ai oublié la mention exacte, mais de film philosophique de l'année, quelque chose comme ça. Bon, un film qui s'appelle, si je ne m'abuse, Agora, vous retrouverez ça facilement, donc Hypatie. Dans le rôle de la philosophe, sur laquelle, disons, les choses des écrivains ont complètement fantasmé par la suite, intellectuellement et plus qu'à raffinité. Les écrivains hostiles au monothéisme, à l'intolérance chrétienne, ont fait d'Hypatie la figure de proue du polythéisme antique. Et donc, par la suite, on en a fait une espèce, assez curieusement, de sainte, vierge et martyre de la cause non chrétienne, si j'ose dire. C'est Rachel Weisz qui joue le personnage, donc effectivement elle a des arguments philosophiques tout à fait intéressants sur YouTube. Alors, bon, le film m'a l'air très mauvais, j'en ai regardé 5 minutes, j'ai pas tenu plus, mais vous l'avez vu peut-être? Oui, et donc très mauvais. Bon, donc on peut couper le son et regarder l'image. Alors, l'intolérance va désormais prendre un autre visage, cette fois non seulement contre les païens, mais aussi au sein même du christianisme, avec une grande sévérité, pour ne pas dire férocité parfois. L'intolérance prend un autre visage entre les différents courants du christianisme, et désormais on retrouve un mot dont on a parlé tout à l'heure, l'hérésie. L'hérésie n'est plus un choix, mais c'est une atteinte à l'orthodoxie, et là il vaut mieux ne pas être hérétique. Pour y mettre bon ordre, on organise des conciles auxquels les empereurs eux-mêmes participent à l'occasion, signe supplémentaire du lien viscéral qui unit la religion et la politique dans l'Empire romain, même au-delà de la disparition du polythéisme. En résumé, je vous ai longuement fait souffrir pour cette conclusion-ci, qui est que, selon moi, l'intolérance pour les Grecs et les Anciens, l'intolérance commence quand on attaque la religion officielle, donc quand on s'en prend à l'essence même politique des États grecs ou romains. Alors qu'avec le monothéisme, l'intolérance commence, me semble-t-il, un petit peu plus tôt. Il y a dans le monothéisme, en germe, je ne dis pas que le monothéisme est bien évidemment, mais il peut y avoir en germe dans le monothéisme l'intolérance au nom de cette vérité qui, vous souvenez, commence avec Platon. À partir du moment où on possède la vérité, où il y a un Dieu unique, il peut y avoir la tentation de réprimer, d'interdire et d'assassiner.
Merci. Merci beaucoup.
Merci à ta tolérance pour ce que j'ai dit sur Platon. Non, on se croisera dans les couloirs bientôt.
Non, mais Platon, on ne sait pas. N'envisage pas une liberté individuelle, hein. Bon, c'est bien d'accord. Hein.
Tout est dit.
Bon. À vos questions. Hein.
Oui.
Oui, en ce qui concerne chez les Grecs, la religion chez les Grecs, vous n'avez pas parlé de Pythagore.
Non, parce que ma montre a la réponse pour vous, il est déjà 10h10, j'ai abusé, j'en ai conscience, et d'un autre côté j'ai essayé d'être succinct. Alors Pythagore, c'est un peu la bouteille à l'encre des religions antiques, le pythagorisme, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, les sources sont confuses. Le pythagorisme donc se caractérise par certains éléments, mais l'existence même de Pythagore est quelque chose de compliqué. Alors je ne dis pas que Pythagore n'ait pas existé, mais qui était-il, que faisait-il? Déjà c'est très très compliqué. Donc le pythagorisme relève des croyances personnelles, et non pas de la religion officielle. Aucune place officielle. Après, certains étaient tentés par toutes les opinions de Pythagore, notamment la métempsychose. Bon, mais bon, c'est un courant religieux à titre privé, parmi bien d'autres en Grèce, comme il y avait des cultes à mystère, etc. Alors, je ne réponds pas à votre question, mais d'abord, je crois que je ne vous ai pas laissé terminer votre question, excusez-moi.
Non, j'étais surprise que Pythagore n'apparaisse pas dans le courant de pensée que vous avez évoqué.
C'est un courant de pensée parmi bien d'autres. Oui. Mais pourquoi lui plus qu'un autre, finalement? Parce qu'il est plus connu? A-t-il été d'une influence si considérable sur la religion grecque, sur la pensée religieuse?
Sur Platon, quoi.
Sur Platon, oui, mais pour, si on essaie de voir l'ensemble de la société grecque, je ne sais pas. Et on n'a pas de chiffres. Quelles sont vos convictions religieuses? Pas de sondage, pas de... Donc c'est difficile. Sur Platon, oui, effectivement. Et même, paraît-il, une influence sur le roi Numa Pompilius, le roi romain, bon, qui aurait été pythagoricien. On voit des influences pythagoriciennes jusque chez les Gaulois aussi. Bon. C'est extrêmement compliqué.
Celtes aussi?
Les Celtes, oui. Les Gaulois étaient des Celtes, effectivement. Oui.
Les Gaulois, les Celtes, c'était aussi l'Europe de l'Est.
Tout à fait. Oui, la Bretagne, avec cette idée de réincarnation. Oui.
Vous nous avez parlé dans les trois développements que vous avez fait de la tolérance, mais par rapport à la religion.
Oui.
Est-ce qu'on peut considérer que chez les Grecs, ou chez les Romains, ou chez les monothéistes, il existe une forme de religion qui soit simplement de nature sociale, si j'ose dire, bien que vous ayez insisté sur la relation extrêmement intime qu'il y a entre la religion et la société, mais vous n'avez pas du tout évoqué une relation avec des gens de la cité, si j'ose dire, avec la tolérance qui ne concernerait plus la religion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ?
Alors, est-ce que j'ai envie de vous demander de préciser votre question. Donc, sur le plan social, là, comment faut-il le prendre ?
Pardon ?
Sur le plan social, comment faut-il le prendre ?
C'est-à-dire, vous avez développé l'idée que la religion était extrêmement insérée dans la vie sociale des Grecs et Romains, etc. Mais la notion de tolérance, évidemment, c'est une conception un peu moderne, mais essentiellement moderne, mais elle devait exister, au moins je l'espère, au sens du respect simplement des individus les uns envers les autres. Mmh. Est-ce que, par exemple, les Grecs et les Romains étaient sensibles à cette forme de relation ?
D'accord. Alors, la tolérance hors du champ religieux, effectivement, je pense qu'elle était moins forte qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Beaucoup moins forte. Je vais revenir à la sphère politique pour répondre, et puis à la sphère sociale aussi. Prenons l'exemple de la question de la citoyenneté. On cite toujours Athènes comme le modèle de la démocratie, mais on serait extrêmement surpris de voir comment les choses se passaient, dans la mesure où non seulement tout le monde n'était pas citoyen, pour être citoyen il fallait être de père athénien à Athènes, et même à une certaine époque, parce qu'il y avait trop de citoyens et qu'il n'y avait pas assez de place, c'est une question de locaux, ou du moins d'espace public, pour accueillir l'assemblée de tous les citoyens, à une certaine époque, Périclès, qui était pourtant officiellement le chef de la démocratie, Périclès a décidé que pour être citoyen, il fallait être désormais de père et de mère citoyen, plutôt de père citoyen et de mère fille de citoyen. Donc, des gens se sont vus déchus de leur citoyenneté par simple décision politique, pour une question de place. Bon, si je passe par cet exemple, c'est pour dire, a fortiori pour les autres. Il y avait, vous le savez, différentes catégories sociales dans l'Athènes antique, et puis c'était vrai aussi à Rome. À Athènes, il y avait les citoyens, il y avait les métèques, c'est-à-dire les métoïkoi, les cohabitants, si on traduit littéralement, ceux qui vivaient dans la cité, qui étaient des étrangers, généralement des Grecs, parfois des barbares, mais généralement des Grecs, mais qui étaient des hommes libres, mais qui n'avaient pas le droit de citer, pas le droit d'exercer leur citoyenneté. Il y avait aussi les esclaves, et entre les deux, métèques, hommes libres et esclaves, il y avait les affranchis. Et il y avait, très franchement, une cascade de mépris, un peu comme sous l'Ancien Régime en France, selon le statut social. Donc je pense que de ce côté-là, il y avait très très peu de tolérance. Et d'ailleurs, la première forme d'intolérance, ça nous ramène un an en arrière, c'est des Grecs envers les barbares. Et là, effectivement, oui. Alors j'ai axé mon propos sur la tolérance sur le plan religieux. Pardon. Oui.
Le citoyen, c'est d'abord un homme. Avant d'avoir 18 ans, c'est d'abord la femme, elle est au mieux mère, au pire, cuisinière.
Ce n'est pas le pire, je pense. Chez les Grecs, il y a bien pire.
Moi, ce qui me gêne, c'est le mot tolérance ou intolérance. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je dirais plutôt un mépris social à l'égard de ceux qui sont de catégorie inférieure. Parce que le mot tolérance, effectivement, c'est un mot moderne. Et je pense qu'en fait, la tolérance, la question de l'intolérance, elle commence, c'est vrai, avec une religion qui a, comme tu l'as dit, une vocation universelle, c'est le christianisme, et qui ne supporte pas qu'il puisse y avoir d'autres religions. Parce que les Romains ou je sais pas les Juifs par exemple, ils étaient extrêmement sévères à l'égard de ceux qui ne respectaient pas le culte. Mais bon, c'était interne. Il n'y avait pas de prétention à aller évangéliser.
Je ferai remonter l'intolérance au monothéisme précédent, au judaïsme, du moins chez certains qui les Zélotes, qui dès l'époque grecque, donc avant. Avant le 1er siècle, certains considéraient qu'il ne devait pas y avoir un seul non-juif sur le territoire de la Judée.
Oui, mais sur le territoire de la Judée.
Oui.
Il n'y a pas tout de même, comme chez les chrétiens, une prédication universelle.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut répandre le christianisme partout. Et ça, c'est tout de même nouveau, ça.
Oui, tout à fait.
Reconnaître, hein.
Mais d'un autre côté, certains donc juifs n'acceptaient pas une autre forme de religion.
À l'intérieur de leur
territoire, voilà. Effectivement. Et là, ensuite, le christianisme a là aussi apporté une dimension universelle.
C'est pour ça que, enfin, moi je ne parlerai pas volontiers, facilement, de tolérance ou d'intolérance pour au sens où, effectivement, le concept, nous l'utilisons pour désigner cette violence, cette forme d'exclusion à l'égard de catégories sociales ou même d'autres peuples. C'est toujours pour des raisons politiques, essentiellement, finalement, que les conflits ont lieu. J'ai coupé la parole. C'est, par exemple, quand on lit Voltaire, lui, pour lui, c'est clair. Hein, au fond, les formes de violence qu'il y avait dans les sociétés antérieures, avant le christianisme, bon, elles existaient, bien sûr. Enfin, c'était net. Mais lui, il ne veut pas, il n'emploie pas le mot intolérance, en fait. Alors, c'est spécifiquement chrétien.
Plus personne n'ose parler. Vous craignez nos anathèmes, peut-être. Bien, ça va se terminer entre nous. L'un des deux va exclure l'autre.
Non, mais allez-y. Hein. Est-ce que, je ne sais pas, pour relancer la discussion, il y avait, ce que tu en penses, un petit bouquin très bien, moi je l'ai trouvé pas mal, de Paul Vane, je sais bien que tu ne l'aimes pas trop.
Non. Merci de dire en premier.
Sur comment l'Occident est-il de vous, comment
oui, est-il je n'ai pas lu chrétien.
Moi j'ai dit, bon, c'est pas mal, je trouve que c'est pas intéressant, ça se lit facilement, vous trouvez ça facilement. Hein. Mmh. Et. Bon, justement, tous les premiers siècles à Rome, là. Pendant longtemps, il y a eu une certaine coexistence donc, entre
oui,
les...
Oui, il y a eu des siècles extrêmement intéressants, hein, je pense, sur le plan des civilisations. Il y a notamment un livre de Pascal Quignard, alors je n'arrive jamais à retenir le titre. Ce sont les tablettes de bois de... et puis un nom romain qu'il a cherché, très alambiqué. Bon, c'est Quignard, on ne peut pas faire simple, mais... livre très intéressant pour dépeindre cette époque étrange... où effectivement continuait à exister le polythéisme et s'affirmait le monothéisme. Donc les deux, l'un en face de l'autre. Époque au cours de laquelle donc, les rapports de force se sont inversés. Un monde qui meurt, un monde qui naît. C'était manifestement, ça a été une époque qui a dû être passionnante. Mais aussi terrible certainement pour les derniers polythéistes. Et il y a une figure extrêmement... intéressante, j'ai été sobre tout à l'heure, mais qui me semble extrêmement intéressante, c'est la figure de Julien dit l'apostat encore une fois. Alors, il y avait peut-être des raisons personnelles pour combattre le christianisme aussi, il avait été élevé dans cette religion, donc après tout, il aurait pu être, d'une certaine façon, le premier empereur à imposer le christianisme. Bien au contraire, c'était un empereur philosophe, hein, quelqu'un d'extrêmement intéressant par sa carrière politique, personnelle, militaire aussi. Et Julien, manifestement, ne pouvait pas supporter les chrétiens. Donc, peut-être une forme d'intolérance ou d'allergie, en tous les cas.
Bah, c'est-à-dire que les chrétiens étaient assez sectaires, hein, tout de même. Je prends la parole. Allez-y.
Oui. Est-ce qu'on a analysé pourquoi Constantin, à un moment donné, prend le parti d'officialiser la religion chrétienne comme la religion d'État? Surtout, vous dites qu'à ce moment-là, les chrétiens sont minoritaires.
Alors, Constantin ne fait pas du christianisme la religion d'État. Il accorde la liberté des cultes. C'est une première étape vers, mais ce n'est pas tout à fait ça.
D'accord. Après, c'est parce que les chrétiens se multiplient énormément ou pas?
Alors,
entre 313 là, et 390,
Oui, oui, tout à fait. C'est au IVe siècle que ça se joue et donc les dates sont intéressantes. Début du IVe siècle, donc édit de Milan qui accorde la liberté des cultes, c'est Constantin. Et ensuite Théodose Ier, qui fait du christianisme la religion officielle. Bon. Alors pourquoi Constantin a-t-il pris cette décision? S'agissait-il donc d'accorder la liberté à ceux qui étaient ses co-religionnaires, les chrétiens, mais était-il lui-même chrétien? On n'en sait rien, on l'a longtemps dit, on n'en est pas sûr. Il en parle, je crois, dans
son livre. Il en parle, il prétend que, enfin bon, c'est un souvenir, hein, qu'il aurait vraiment eu une expérience religieuse, authentique, qu'il s'est vraiment converti, sincèrement, c'est pas du tout...
Mais les historiens n'en sont plus sûrs aujourd'hui, donc c'est une notion assez compliquée. On peut voir, ce que j'ai lu comme explication, c'est que finalement le christianisme, d'une certaine façon, après avoir été une épine dans le pied de Rome, pouvait apparaître comme la solution précisément... du fait de son universalisme, et plutôt que le culte de Sol Invictus au caractère universel, mais qui n'était pas évident parce qu'il faut croire que le soleil est un dieu et les esprits avaient quand même beaucoup évolué par rapport aux religions anciennes qui faisaient des astres des dieux. Donc la science avait progressé dans l'Antiquité et donc les élites éclairées ne considérait pas forcément qu'il puisse agir d'autre chose que d'une matière inerte qui tournait dans le ciel, donc inerte ou active, mais en tous les cas de matière. Donc peut-être le culte de Sol Invictus n'a-t-il pas réussi à prendre, pour parler familièrement, et le christianisme a pu être vu, j'ai vu quelque chose comme ça là-dessus, a pu être vu comme une solution universelle intéressante pour un empire en quête d'unité. Et j'allais dire, la chose se passe, c'est absolument passionnant, la chose se passe dans les deux sens finalement, parce que le christianisme d'un certain côté a su aussi se mettre au centre de l'Empire à Rome. Après tout, le pape actuel est toujours à Rome, ça fait quand même 2000 ans que ça dure à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dès le début que Pierre est allé à Rome et ses successeurs aussi. Donc d'une certaine façon, il y a une sorte d'entente entre le politique et le religieux là aussi, après quelques siècles d'incompréhension, voire d'hostilité, mais une sorte d'entente, l'Empire pouvant trouver dans le christianisme un élément fédérateur universel et le christianisme pouvant trouver dans Rome un centre de diffusion.
Parce qu'en fait, c'est vrai que l'empereur pendant longtemps, il a été Pontifex Maximus, comme oui. Tu l'as dit. Hein, par exemple, Constantin était Pontifex Maximus.
Oui, et quand l'empereur ne l'a plus été, il participait au concile. D'accord. C'est-à-dire qu'il était là, enfin, pas toujours, mais assez souvent comme Constantin, à la fin du, je peux dire de bêtises, fin du 4e, voilà, concile de Nicée, et ensuite avec plus encore avec le concile de Constantinople, à la fin du 5e siècle, je ne peux pas dire de bêtises sur les dates, hein, c'est de mémoire, mais bon, l'empereur était souvent là pour diriger les débats, pour les ouvrir officiellement.
Il n'y a pas de séparation, la séparation nette entre le politique et le religieux, non. Ça c'est clair.
Mais est-ce qu'à l'époque, à cette époque, le christianisme est déjà très hiérarchisé?
Quelle époque? J'ai envie de vous retourner la question tout en comprenant bien la vôtre, mais de quelle époque parle-t-on? 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle? Les choses évoluent, c'est-à-dire que petit à petit, effectivement, c'est une question extrêmement importante, petit à petit, manifestement, le christianisme a su se hiérarchiser, a su s'organiser d'une manière assez efficace. N'étaient les querelles de chapelle, si je faisais de manière un peu anachronique, qui faisaient que les chrétiens reconnaissaient telle ou telle autorité, tel évêque plutôt que tel autre, mais sinon, assez vite, il y a eu une structure qui s'est mise en place, oui. Et d'ailleurs, au passage, là aussi d'une façon extrêmement romaine, hein. L'Empire romain, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les défaites nombreuses aux frontières, malgré les assassinats d'empereurs, les proclamations d'empereurs par les troupes dans telle ou telle province, ce qui me frappe, c'est que l'Empire romain, sa structure, s'est maintenue. Ce n'est pas un empire qui s'est écroulé parce qu'on a assassiné l'empereur, parce que telle bataille a été perdue. Non, il y a une pérennité, une permanence forte de l'État romain grâce à sa structure même. Et je pense que d'une certaine façon, ça a sûrement été étudié, j'ai rien lu là-dessus, mais je pense que d'une certaine façon, il y a de la part du christianisme une imitation de cette capacité à s'organiser. Qu'on retrouve encore aujourd'hui avec...
Pourquoi dans le christianisme, il a été influencé par le polythéisme qui le précédait quand même. cette notion de saint, de date religieuse et tout.
Complètement.
Mais ça, c'est dans son projet d'extension, quand il a commencé à s'adapter au terrain. Il s'est adapté au terrain, il a christianisé les...
Puisque tous les lieux de culte étaient d'abord des lieux de culte druidique, de la Gaule,
ou d'anciens temples.
D'anciens temples.
La dérision que saint Augustin déversait sur la multiplicité des dieux, les protestants n'ont pas manqué de la déverser sur le catholicisme par la suite, avec les saints. Effectivement. Et les attributions de tel dieu, on retrouve les attributs de tel saint.
Bien sûr, bien sûr.
Ne serait-ce que les deux saints Jean de solstice.
Mmh. Oui, c'est sûr qu'il y a une... s'adapter au terrain.
Ah, c'est le côté un peu romain du christianisme, j'allais dire, qui sait s'adapter, effectivement.
Une dernière question ?
Je me permets juste de vous inviter à lire les textes. Hein. Ils sont tout à fait compréhensibles par eux-mêmes. J'en viens un mot très rapidement. Donc, le premier texte, Hésiode. Donc, le monde se met en place et on voit comment les dieux des Grecs font partie du monde. Ils sont immanents, ils sont constitutifs de la nature elle-même. Le deuxième texte, l'Evocatio, un texte court et absolument délicieux, c'est un contrat. Donc, vous vous souvenez de cette histoire, on appelle les dieux de la cité que l'on va vaincre. C'est un contrat, il y a le fond et il y a la forme. Comme dans un texte juridique, surtout, on ne rate aucun mot qui pourrait faire rater le contrat. Donc, il faut vraiment que tout y soit. Ça a été validé par un lawyer. Le troisième texte de Devotio, là aussi, il y a un rituel qui est extrêmement fort. Il y a un aspect contractuel très fort. Outre la mise en scène de Tite-Live dans son récit. Le texte de Pline me semble extrêmement intéressant dans cette question de ce fonctionnaire qui pense avoir bien agi, mais qui est un peu embarrassé, comment faire face aux chrétiens. La réponse de l'empereur qui lui dit « C'est très bien, tu as fait ce qu'il fallait pour l'État romain. » Et au passage, Pline m'amusera toujours, mais il est sympathique à sa façon, mais Pline manifestement cherche les compliments de Trajan en disant « Dites-moi chef, j'ai quand même bien agi, j'ai bien fait ce qu'il fallait, avec une attitude modérée, même s'il trucide quelques chrétiens au passage quand même. » Dernier texte, le texte double, deux chapitres de saint Augustin dans les Confessions. Dieu a créé la matière de rien, c'est le titre qui a été donné. De cette matière informe, Dieu a tiré l'univers. Ce texte, je vous invite à le lire un peu comme une réponse justement au texte d'Hésiode. C'est tout le contraire, ça n'est pas les dieux qui sont la matière qu'ils créent petit à petit par engendrement. C'est Dieu qui, hors du monde, un Dieu transcendant, crée la matière. Et bien évidemment, avec ce texte, on comprend que l'épicurisme n'était pas en odeur de sainteté à l'époque chrétienne. J'ai parlé tout à l'heure du texte de Lucrèce de la nature. C'est un texte qui a failli disparaître, tout simplement parce que les textes, vous le savez, étaient recopiés, notamment dans les monastères au Moyen-Âge, et un texte qui disait que les dieux existaient quelque part très loin et que tout était atome au départ, eh bien un tel texte, donc, c'était l'Antéchrist à l'époque médiévale.
Eh bien, merci Denis, et vraiment, c'était très bien. Et comment dire, oui,
merci à vous.
Donc, la prochaine séance, je rappelle, c'est le 15, mardi 15.